Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Captain America est de retour aujourd'hui au cinéma et il est très en forme, nous dira dans un instant Stéphane Boutsock. On vous conseillera également le film Dalton Trumbo et rendez-vous au 3210 pour gagner la sortie DVD du jour, la comédie Le Grand Partage avec Karine Viard, Valérie Bonneton et Josiane Balasco. À la télévision ce soir, la série Accusée qui revient sur France 2 et après quelques jours d'absence, Maïtena Biraben retrouve son siège de présentatrice du Grand Journal sur Canal+. Y avait-il de la tension dans l'air? L'animatrice répondra à Isabelle Morini-Bosque. Nos express du jour ont été préparés par Anne Le Hénaff.
Eh oui.
Et puis Monique Younes, nous comment ça? Ben oui. et puis Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL du mois d'avril, Un maillot pour l'Algérie. C'est un récit passionnant tiré de faits réels, l'histoire d'une équipe de football sur fond de guerre d'Algérie.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
On commence donc par le cinéma, ben oui. Avec vous, Stéphane. Oh oui, vous êtes bien meilleur que moi pour faire le ben oui. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Et si nous faisions un tour sur le box-office de ces vacances de Pâques?
Alors il y a un vainqueur, d'après les chiffres de nos amis du site cbo.fr, c'est le Livre de la Jungle de Disney, déjà près de 2 200 000 entrées en 15 jours, score mérité pour ce grand film familial. Le studio, hier, a annoncé la mise en chantier d'un second volet des aventures de Mowgli. On va se dire les choses franchement, oui. Les visionneurs 3 à la Révolution ne déméritent pas, mais le résultat final sera loin d'atteindre les objectifs espérés. Le film a franchi la barre des 2 millions, c'est pas mal, mais s'essouffle après 3 semaines sur les écrans. Une autre comédie française réalise, elle, un très bon démarrage, Adopte un veuf, avec André Dussolier, Arnaud Ducret et Bérangère Krief. Près de 400 000 entrées depuis mercredi. C'est une vraie performance, oui. Parce que c'est grosso modo le même score avec beaucoup moins d'écrans qu'une super production comme Le Chasseur et la Reine des Neiges, par exemple. Et puis notez autour de 180 000 entrées pour Les Malheurs de Sophie.
Alors, les sorties de ce 27 avril vont peut-être rebattre les cartes de ce box-office, avec notamment l'arrivée sur nos écrans de Captain America Civil War des studios Marvel.
Alors vous allez me dire, encore un film de super-héros,
oui, je vous le dis,
avec des effets spéciaux, avec une musique assourdissante, je vous répondrai oui,
oui.
Mais celui-ci est à la fois plus profond et plus intéressant que les derniers poulains de l'écurie Marvel. C'est en gros le meilleur depuis le premier Avengers. L'idée, alors qu'on croyait le groupe de personnages unis à jamais contre le mal, on découvre en fait que deux clans vont s'affronter. Objet de la bataille, les Nations Unies qui veulent encadrer ces héros pour éviter qu'ils ne détruisent nos villes et leurs habitants lors de leur combat contre les méchants.
Captain America
refuse l'accord, Iron Man l'accepte. J'essaye de dramatiser.
Oui, j'ai bien
compris. Sous l'armure rouge et jaune d'Iron Man, on retrouve Robert Downey Jr.
Ce qui me plaît là-dedans, c'est l'idée de l'onde de choc qui se propage comme les cercles dans l'eau après un ricochet. Au fond, tout cela répond à une question légitime que tout être humain sensé devrait se poser. Pourquoi est-ce que personne n'a jamais tenté d'arrêter les Avengers alors qu'ils ont dévasté le monde en tentant de le sauver? J'y pense depuis la saga Iron Man. Avengers est un énorme bazar très ambitieux, mais pour moi, Captain America Civil War est sans doute le plus intéressant et séduisant des Marvel. L'idée d'un fossé grandissant entre deux personnages que vous ne voulez surtout pas voir s'affronter, parce que vous savez au fond qu'ils sont bons.
Dites donc, c'est Tony Cousin, notre rédacteur en chef du matin, qui
double Robert Downey officiel de Robert Downey.
Ah oui, Tony. Alors là, c'est
Robert qui demande. Vous savez, quand il vient en France.
Je sais, il ne veut que lui.
Film malin, intéressant, alors qu'au départ, Captain America, c'est sans doute le moins charismatique des héros Marvel. Film sombre et drôle aussi, grâce notamment au retour sur les écrans de Spider-Man dans une version plus ado, forcément maladroit et garçon, comme les ados.
Spider-Man et les chic types, donc.
C'est exactement. Ouais. Ça préfigure une nouvelle saga de l'homme araignée à venir à partir de l'année prochaine. En attendant, donc, Captain America Civil War, à voir cette semaine avec aussi la délicieuse Scarlett Johansson et William Hurt.
Alors, cinéma américain encore, Stéphane, avec Dalton Trumbo, qui revient sur la période du McCarthyisme dans les années 40 et 50 aux États-Unis.
Hein. La chasse aux sorcières qui a frappé Hollywood et ceux qui étaient soupçonnés de promouvoir voir l'idéologie communiste, film classique un petit peu trop, c'est mon seul regret, mais passionnant, centré autour de Trumbo, scénariste réputé, qui se verra banni par les studios, condamné à la prison et obligé ensuite de prendre un pseudonyme pour nourrir sa famille, en signant des scripts de séries B, voire des séries Z, mais aussi des classiques comme Vacances romaines, il aura même l'Oscar plus tard pour Spartacus. Dans le rôle-titre, ça lui a valu d'ailleurs une nomination cette année à l'Oscar du meilleur acteur, Bryan Cranston, devenu star grâce à la série télé Breaking Bad, il campe un Dalton Trumbo, criant de vérité, à la fois horripilant, intransigeant et émouvant.
Ça a toujours été un contestataire. Il adorait écrire, il était même prolifique. Ça allait jusqu'à des courriers envoyés à la compagnie d'électricité pour dénoncer leurs tarifs et leurs services ou aux directions des écoles de ses enfants. Pour lui, il y avait sans cesse un combat à mener. Alors, quand il a été réellement menacé, il était prêt à se battre. En fait, il pensait l'être. Et il a pris une raclée et sa famille ou ses amis en ont payé le prix. Ça a été une expérience très douloureuse, ce qui lui fait dire à la fin, il n'y a pas de héros ici. Il y a juste des victimes.
There were no heroes. There were only victims.
Bryan Cranston à l'affiche de Dalton Trumbo de Jay Roach, dans lequel on retrouve aussi une formidable Hélène Mirren dans la peau d'une chroniqueuse mondaine et spécialiste des ragots. Elle était très connue à l'époque. Elle s'appelait Edda Hooper, vieille rombière aigrie, persuadée de savoir tout sur tout le monde et dont les compliments cachent toujours un coup de poignard dans le dos. À l'affiche aussi Green Room, épatant thriller horrifique et musical. On l'avait vu ça en septembre dernier au Festival du film américain de Deauville. Ça raconte comment un groupe punk qui termine une tournée totalement désastreuse dans un club miteux au fin fond de l'Oregon va tomber sur un gang de skinheads relativement peu sympathiques. C'est trash, mais c'est extrêmement jouissif. Un mot de la sortie de Nos Souvenirs, film de Gus Van Sant. Lui, on l'avait découvert l'an dernier à Cannes. Le studio, vu l'accueil épouvantable sur la croisette, ne savait pas trop quoi faire du film. Bah, le voilà, donc quasiment un an après. Histoire de deuil onirique dans une forêt japonaise. Pauvre Matthew McConaughey qui essaie de se sortir du bois, mais en fait, c'est nous qui paumons route entre les arbres.
Alors, on passe au cinéma français, Stéphane, et vous revenez sur Les Habitants, le documentaire de Raymond Depardon, dont vous nous parliez avec un véritable enthousiasme lundi.
Oui, instantané de Français anonymes rencontrés dans la rue, filmés par deux, dans une caravane du nord au sud de l'Hexagone. Ça a l'air anodin au premier abord, mais c'est en fait profond, humain, passionnant, parce que ces conversations sur la famille, l'amour, le sexe, les racines, sont en fait notre autoportrait, saisi par l'œil expert de Depardon, extrait en forme de compilation.
Ça va être un été mouvementé, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis sûre, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julio.
T'es beau.
Comme toi.
Mais on est complètement l'opposé.
À l'opposé.
On se demande pourquoi, mais ensemble d'ailleurs.
Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré.
Et macho, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Arrêtez, la ponceuse, je te la tiens.
C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge, et moi, ça me met les nerfs.
Dès que je me suis mis en couple, bah, toutes les filles de Nice sont venues.
Ah ouais. Ça fait 40 ans que je suis là, je repartirai jamais.
Un couple normal, on dort ensemble.
I love you.
Les habitants.
Je vais te tenir la ponceuse, moi, tu vois.
Des promesses. Les habitants de Raymond Depardon à ne pas rater au cinéma. Alors, je suis en revanche sorti un petit peu atterré de la projection de West Coast, épopée fatigante de quatre ados bretons fans de rap en mal de reconnaissance, de rêve et d'amour. On est malheureusement, mais ce n'est que mon avis, plus près de Neuilly, sa mère, que des 400 coups, et c'est bien dommage.
Allez, place maintenant à notre cadeau du jour. Nous vous offrons ce matin des DVD du film RTL Le Grand Partage d'Alexandra Leclerc, avec notamment Karine Viard, Valérie Bonneton et Didier Bourdon. Et pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Dans le film Captain America Civil War, quel super-héros s'oppose à Captain America, est-ce Iron Man ou est-ce Thor ?
Réponse au 32-10 et nous ferons un point sur nos audiences télévisées dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque. On a encore beaucoup de choses pour vous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Les audiences de notre soirée télévisée avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Je parle sous votre autorité, vous venez de les regarder. Eh bien, Unforgettable est en tête, mais il n'y a pas de quoi pavoiser sur TF1. 4 700 000 téléspectateurs et 19% du public sur la une. Le vrai succès est pour L'Invité, la pièce de théâtre transmise du théâtre Montparnasse hier soir. Patrick Chenet avait dit qu'il serait content à 3 millions, 3 millions 5, et bien le pari est gagné. 3 700 000 quasiment et 16% du public sur France 2. Famille d'accueil termine en pente douce. Et The Island seul au monde avec 2 400 000 téléspectateurs gagne tous ses fidèles. N'en gagne pas, n'en perd pas. 10% du public sur M6. Et côté TNT, c'est W9 avec Les Flingueuses qui est en tête. 900 000 téléspectateurs.
On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée.
Les Express LVT.
Avec Anne Le Hénaff cette semaine. Bonjour Anne.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour
Anne.
C'est
une
tradition.
C'est sympa. Oui. Voilà. Comme chaque semaine, consultons donc le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Et du côté des romans, l'indétrônable Guillaume Musso occupe toujours la première place avec La fille de Brooklyn, devant le livre d'Annie Ernaux, Mémoire de fille et le mystère Henri Pic de David Funkinos. Au rayon des essais et des documents, en tête des ventes cette semaine, Tout ce qu'il ne faut pas dire, ce pamphlet du général de gendarmerie Bertrand Soublet contre la manière dont la justice et la sécurité sont administrées en France.
Et qui fut notre invité
invité en exclusivité sur RTL. Palmarès complet à retrouver, bien entendu, dans l'Express de demain. 6 jours après la mort du chanteur Prince, sa famille prend la parole.
Le beau-frère du Kid de Minneapolis a annoncé que la maison de Paisley Park, qui abritait également les studios du musicien, serait transformée en musée dédié aux fans. Et puis, autre information importante, Prince n'avait pas écrit de testament. C'est ce qu'a déclaré sa sœur à la presse américaine. Tika Nelson a par ailleurs fait savoir qu'elle avait entamé des démarches administratives pour devenir l'ayant droit de la star. Prince n'avait pas d'enfant et ses deux ex-femmes ne se sont pas manifestées pour l'instant.
Alors, dans le même temps, les ventes de disques de Prince s'envolent, hein.
Déjà 3,5 millions de disques et de chansons vendus aux États-Unis depuis l'annonce de sa disparition. On aura les chiffres de vente en France vendredi prochain. Les hommages des artistes sont nombreux. Voici ce matin celui de Mathieu Chédid, une adaptation très personnelle et très douce de la chanson « Sometimes it snows in April ».
Soudain il neige en avril. Soudain je me sens si mal, si mal.
L'hommage de Mathieu Chédid à Prince, hein, c'est une indiscrétion cinéma maintenant.
L'acteur américain Joaquin Phoenix, qu'on a pu voir dans Gladiator ou Walk the Line, ne va pas s'ennuyer dans les mois qui viennent. Il devrait être l'un des héros du prochain film de Jacques Audiard, The Sisters Brothers, un western se déroulant pendant la ruée vers l'or, tournage imminent. Et l'acteur est également pressenti pour tenir le rôle de Jésus dans un film en préparation sur Marie-Madeleine.
Un tout petit point avec vous, Stéphane Woodsock. J'adore ce comédien. Il n'avait pas annoncé 2 ou 3 fois qu'il arrêtait sa carrière de comédien.
Si, mais alors, c'était pour une sorte de faux documentaire qui était tourné sur lui, sur sa supposée retraite. Mais depuis, il est vraiment revenu en
Mais ça, je l'ai bien compris.
Il est particulier comme garçon.
Oui, il est particulier. Hein. Alors, pour terminer, on reste dans le ton. La Pologne prépare une comédie musicale pop-rock sur Jean-Paul II. GP2.
Yes. Ce sera pour le début de l'année prochaine. L'auteur du scénario et des chansons est un fan, si l'on peut dire, du défunt pape. Il a fait la queue 15 heures à Rome pour s'incliner devant son cercueil il y a 11 ans. Le casting n'est pas encore bouclé. Hein. Il manque un Carole Wojtyla de 10 ans et un de 20 ans, avis aux amateurs.
Merci beaucoup.
King of Pape.
Oui, King of Pape. Merci beaucoup, Anne-Lena. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors, on passe à notre soirée télévisée avec vous, Isabelle. Et on commence par la série Accusée sur la 2.
Oui, deuxième saison d'une collection avec 6 épisodes indépendants les uns des autres. Une histoire par épisode. Ce soir, Michel Bernier tire une vedette par épisode. Ce soir, Michel Bernier et Thierry Frémont. C'est adapté d'un concept anglais. Chaque volet commence en prison. Le but étant de montrer que n'importe qui peut se retrouver incarcéré après un accident de parcours. Les infos sont distillées. Le spectateur doit attendre pour avoir tous les éléments du puzzle. Premier cas, procès de Michel Bernier, un officier de gendarmerie. Elle décline d'abord son identité.
Nathalie Royer, adjudante de gendarmerie.
Lorsque les faits se sont produits, vous étiez adjointe au capitaine de la brigade qui vous accordait toute sa confiance. Que vous est-il arrivé, madame ?
Je suis tombée amoureuse.
Voilà, la suite sur France 2 ce soir. Michel Bernier, coïncidence, est également sur D8 dans une série documentaire signée Laurent Boyer et consacrée ce soir à Mimi Mati. Soyons francs, j'avais vu que des extraits. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à de bonnes choses déjà existantes. J'avais tort, je l'ai constaté en reprenant tout depuis le début et Laurent Boyer me le confirme.
Déjà, d'une, c'est un documentaire, donc on ne me voit pas, on n'entend même pas mes questions. Or, j'ai fait toutes les interviews, je fais la narration, aller fouiller dans la vie de la famille, aller chercher des gens extrêmement surprenants pour l'artiste, revoir sa grand-mère, le jour où sa grand-mère a appris qu'elle était de petite taille. Moi, je pensais que c'était une deuxième partie de soirée. Or, en fait, ce sont des 20h30, enfin des 21h. 21h...
20.
C'est ça. Ils en ont commandé 2 tout de suite. On a commencé à tourner le 1er septembre. C'est très long. C'est un gros travail de recherche avant. Dans les greniers ou les caves, savoir s'il reste des films, retrouver des films, les remonter, une iconographie, des photos, les redynamiser de sorte que ce soit numérique. Et puis faire des petits reportages. Et puis avoir l'artiste après qui commente. Et voilà, donc il m'a fallu 8 mois pour faire 1h50.
Voilà, les archives sont incroyables, les témoignages très attachants. On se prend honnêtement d'amour, notamment pour ses parents qui ont su aider leur fille à prendre, si j'ose dire, de la hauteur. Et le prochain portrait sera consacré à Laurent Gérard.
Très bien. Alors on en vient maintenant à l'actualité depuis vendredi. Hein. La présentatrice du Grand Journal de Canal+ était absente de l'antenne. La rumeur a aussitôt évoqué une bouderie consécutive à un différend avec sa rédaction, voire avec sa chaîne.
Exactement. Ce qui honnêtement m'étonnait...
On n'a pas encore donné son nom, Maïtena Birabin.
Maïtena Birabin.
Oui, elle aime bien quoi.
Il faut dire Birabin. Oui. Alors ce qui honnêtement m'étonnait, parce que cela ne ressemble pas du tout à cette fonceuse qui tourne jamais le dos, ni aux gens, ni aux difficultés, bah, le plus simple c'était de l'appeler, c'est ce que j'ai fait, pour qu'elle me dise petit a, si on allait effectivement la revoir ce soir. soir. Et petit B, bah, pourquoi elle n'avait pas été là ce jour dernier ?
Bien sûr.
Alors oui, j'en profite pour remercier Victor d'avoir pris le relais avec brio. Je serai de retour ce soir comme c'était prévu depuis le début. Il se trouve que j'ai eu un pépin de santé absolument pas grave, mais qui fait que j'ai dû m'arrêter vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi y compris. Je suis contente que vous me donniez la parole parce que je suis un peu sidérée. On a pu lire que j'avais été mise à pied par ma chaîne, donc je le dément, la chaîne aussi. On a pu lire que contrarié, je me dépasse dans mon travail. Alors je sais bien qu'on fait un métier bizarre à la télé, mais quand même, on est soumis au même code du travail que tout le monde. Et on ne peut pas ne pas aller faire son travail parce qu'on est contrarié. Je trouve ça tellement drôle. Et puis, oui, que aussi c'était à la suite d'un conflit. Oui, oui, je vous confirme, on s'engueule dans les rédactions, ça arrive. C'est pas pour autant qu'on claque la porte et qu'on arrête son job. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Donc je serai de retour ce soir pour présenter le Grand Journal avec joie.
C'est lié à la mort de Prince, non ? Et à l'engueulade que vous auriez eue à chaud avec une rédaction jugée pas assez réactive ?
Oui, oui, il a été dit que je serais comme une espèce de marâtre fâché contre mon équipe après l'émission du décès de Prince. Encore une fois, les rédactions sont des endroits où on hurle de rire et on s'engueule. Oui, mais c'est pas le sujet. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne retourne pas faire son travail parce qu'il s'est engueulé avec sa rédaction. Dans le code du travail, il n'est pas écrit « si vous êtes contrarié, n'allez pas à votre travail ». Ça n'existe pas. C'est incroyable ce qu'on peut écrire comme ânerie.
En revanche, c'est vrai que les sociologues ont beaucoup dit qu'on était un pays où on faisait beaucoup d'arrêts de maladie.
Oui, ça a coûté. Moi, c'est la deuxième ou troisième fois de ma vie. Je suis d'ailleurs très étonnée. Quand j'étais à la matinale, on n'avait pas fait les couvertures des journaux parce que je m'arrêtais. Quoi. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Il est parfois un peu biaisé. Voilà, je suis droit dans mes bottes et ce soir, je serai à l'antenne.
Et au moins jusqu'à la fin de saison.
Bah, évidemment. Ouais. Enfin. Et pourquoi j'arrêterai avant ? Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Voir droite dans ses escarpins, et donc on est heureux de la retrouver ce soir.
Absolument, ce soir. Alors elle n'avait pas encore le nom de ses invités, puisque justement c'est lié à l'actu.
La mise au point de Maïté Nabirabin sur RTL et dans ce rendez-vous télévisé avec Isabelle Morini-Bosque. On se retrouve, nous, dans un instant avec Monique Younes, qui va nous parler de sa bande dessinée RTL d'avril, qu'elle aime beaucoup, le titre « Un maillot pour l'Algérie ». On vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Alors Monique Younes, vous nous présentez ce matin la bande dessinée RTL d'avril qui a pour titre Un maillot pour l'Algérie. Vous voilà donc devenue chroniqueuse sportive.
Et pourquoi pas ? J'ai toujours rêvé d'inviter Zlatan dans notre émission.
Ah oui.
Ça se fera peut-être un jour. En attendant, c'est bien de foot dont il s'agit, sujet très peu traité en bande dessinée, et encore moins de football politique, un genre que les auteurs de cette bande dessinée, Chris et Bertrand Gallic, viennent tout juste d'inventer.
À la base, c'est quoi, une histoire vraie ?
Mais une histoire vraie est totalement incroyable, comme la plupart des histoires vraies. Nous sommes en avril 1958, la France prépare la Coupe du Monde de foot, qui se tiendra en Suède, 2 mois plus tard, et parmi les joueurs français sélectionnables, un certain nombre sont d'origine algérienne et non des moindres. Les Zidane de l'époque s'appelaient Rachid Mekloufi, qui jouait à l'AS Saint-Étienne, Hamid Kermali à l'Olympique Lyonnais, Charbi à l'AS Monaco et j'en passe. Des pointures, tous, ils jouent, ils gagnent, tout va bien pour eux. Et c'est alors qu'un délégué du FLN va leur rappeler que tout n'est pas aussi rose. En Algérie, il y a la guerre et il faut qu'ils soutiennent le mouvement de libération. Il leur demande ni plus ni moins de déserter leur club, la France, pour se rendre en Tunisie, à Tunis, siège du FLN, afin de monter l'équipe de foot de l'Algérie indépendante. Et le plus célèbre de ses joueurs s'appelle Rachid Mekloufi et il se souvient de tout.
On m'a dit « Demain, on part sur Tunis. Point final. » Bon, j'ai dit « Bon. »
Quand même, au fond de vous, il n'y a pas une once d'hésitation.
Alors, pas du tout. Et je crois que c'est une réaction générale de tous les gars. Peut-être on attendait ça. Vous savez, moi, je suis de Sétif. Donc, à Sétif, il y a eu quand même, en 1945, c'était violent, c'était une catastrophe. Tout Algérien espérait avoir l'indépendance.
Ils sont donc 10 à déserter leur club. Leur mission était de jouer et surtout de gagner des matchs pour sensibiliser le monde à la cause algérienne.
À partir du moment où on nous a donné un ballon sur un terrain, on a tout de suite vu que c'était une équipe merveilleuse, qu'il y avait une coordination, un jeu, une compréhension du jeu entre nous. C'était les 10 meilleurs joueurs du championnat français. Et il y avait 11 Zidane dans cette équipe du FLN. C'est pour ça que je dis, c'était pas sentimental, c'était techniquement quelque chose de magnifique. C'est ça qui nous a un petit peu fait oublier le reste.
Alors, Monique, dites-nous, le reste, c'est quoi?
Le reste, c'est la pression médiatique, politique, financière, mais aussi la pression familiale, comme on le découvre dans cet album co-scénarisé par Chris.
Le fait qu'ils soient partis aussi avec leur famille, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, étaient mariés, ça exigeait non seulement un sacrifice sportif, un sacrifice avec leurs amis, mais également, est-ce que les familles allaient suivre? La plupart, ça a été le cas, mais ça n'a pas tenu tout au long de leur aventure. Et donc, très vite, on voit que c'est la patte humaine qu'il y a dans cette histoire-là qui est la plus intéressante à traiter, parce qu'au fond, ça fait quoi de devenir apatride, hein, potentiellement, parce que si l'Algérie ne gagne pas la guerre, ils sont plus français, ils ont trahi la France, et l'Algérie n'existe pas, enfin, en tant que pays indépendant. Donc, ça fait quoi de se retrouver dans cette situation-là, et au long cours, pendant 4 ans? Il y a l'exaltation du départ, mais après?
Après, la crainte de l'inconnu est pesante. Les joueurs ignorent combien cette guerre de libération, commencée il y a 4 ans, va durer. Mais leur consolation, ils la trouvent sur les terrains de foot, où ils réalisent des exploits, terrassant les équipes des pays voisins, mais aussi les équipes de l'Europe de l'Est. Et après l'indépendance de l'Algérie, les joueurs furent laissés libres de rentrer en France ou d'aller en Algérie. Rachid Mekloufi retournera jouer à Saint-Étienne en décembre 1962. Son premier match met un point final à cette bande dessinée, un maillot pour l'Algérie, qui rend hommage à cette équipe d'Algériens et qui rafraîchit les mémoires, a voulu Chris.
Ce retour-là à Saint-Étienne permettait de remettre de la normalité dans les relations franco-algériennes, qui ne sont jamais simples. Et finalement, c'était aussi en refaire une histoire française. C'est notre histoire, elle fait partie de l'histoire de France. Et le fait que Rachid revienne à Saint-Étienne, redevienne un footballeur d'un club français, était important, oui, pour continuer de lier les deux.
Et puis vous voyez, on ne se souvient pas nécessairement de cette histoire. Et je rappelle quelques grands événements sportifs qui ont changé quand même le cours de l'histoire. Vous vous souvenez effectivement des Jeux Olympiques utilisés par Hitler à Munich en 36, et plus près de nous, il y a eu le point ganté de noir dressé bien sûr par les sprinters américains aux Jeux Olympiques de Mexico 68. Et bien cette bande dessinée est là pour nous rappeler effectivement que cette équipe d'Algérienne a fait un travail formidable. Un maillot pour l'Algérie, c'était Chris et Bertrand Galli qui l'ont co-scénarisé, et elle est dessinée par Rafi Rey, éditée par Dupuis, et c'est la bande dessinée RTL d'avril.
Et j'ai découvert en vous écoutant en fait que cette bande dessinée et cette histoire nous raconte notre histoire commune avec l'Algérie. C'est un véritable résumé de nos rapports depuis ces 40 ou 50 dernières années.
Qui sont jamais simples.
Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné le DVD Le Grand Partage d'Alexandra Leclerc avec Karine Viard, Valérie Bonneton et Didier Bourdon. Ce film vous avait fait beaucoup rire à sa sortie. Il fallait répondre à une question de Stéphane au 32-10. On écoutera peut-être aussi un tout petit peu de musique. On va voir si on a le temps.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Cher Stéphane, dans Captain Américain, Civil War.
Vous le faites bien.
Oui, j'ai envie de faire des efforts en anglais. Quel super-héros s'oppose à Captain America? Est-ce Iron Man ou Thor?
Si vous avez dit Iron Man, vous n'avez pas tort.
Voilà, c'est parfait. Donc c'est vous avez gagné le DVD du Grand Partage d'Alexandra Leclerc, je vous le rappelle, avec Karine Viard, Valérie Bonneton et Didier Bourdon. Une dernière info. D'abord, on avait envie de réécouter un tout petit peu de cette ravissante chanson de Prince, adaptée par Mathieu Chédid à l'occasion de sa disparition.
Soudain il neige en avril. Soudain je me sens si mal, si mal. Même si je sais que ce prince est immortel.
C'est Anne Lehnaff qui nous l'a fait découvrir tout à l'heure dans ses express. Et vous avez quelques infos concernant Prince.
Oui, parce que les Américains ne sont jamais en retard d'une bonne ou d'une mauvaise idée. Donc il y a déjà des projets d'adaptation de la vie de Prince pour le cinéma. Il y a une radio américaine qui a lancé un concours. Quel acteur pourrait jouer le rôle? Et figurez-vous que Jesse Williams, qui est un des héros de la série Grey's Anatomy, vous savez, c'est ce métis aux yeux très
très
clair.
Très bleu.
Eh bien, a plutôt le profil d'après, en tous les cas, les internautes et les fans de cette radio. Voilà. Donc à suivre.
Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses, en plus des questions des ayants droit que nous abordions tout à l'heure. Mais ça, c'est toujours le cas quand il y a la disparition d'une star internationale de la pop musique. Merci beaucoup à toute l'équipe. On se retrouve avec grand plaisir demain pour un nouveau Laissez-vous tenter.
Vous écoutez RTL.